Mais avant de lire le texte, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce qui vous préoccupe au quotidien? Qu'est-ce qui fait le plus l'objet de vos pensées au fil de la journée? Imaginez qu'on branche votre cerveau sur un ordinateur pour analyser l'activité de votre esprit de la semaine passée. Et qu'on en fasse un graphique sous la forme, vous savez, d'un joli fromage, joliment divisé en plusieurs parties de couleurs différentes. Eh bien, à qui ou à quoi revient la plus grosse part cette semaine passée? À votre travail? Ou bien à vos études? Ou bien à un loisir particulier que vous aimez pratiquer? Ou bien à votre amoureux ou votre amoureuse? Ou bien peut-être à vos soucis d'argent? Ou à vos soucis de santé? Il y a beaucoup de sujets, en effet, qui nous paraissent importants et qui, par conséquent, parce qu'ils nous paraissent importants, ils occupent notre esprit. Mais si on peut mesurer l'importance qu'un sujet a pour nous au temps que nous passons à y penser, si on peut mesurer l'importance qu'un sujet a pour nous au temps que nous passons à y penser, qu'en est-il du sujet suivant, notre relation à Dieu? Quelle part du fromage est consacrée à ce sujet, au sujet de notre relation à Dieu? La semaine passée, est-ce que votre relation à Dieu, c'est quelque chose qui vous a beaucoup préoccupé? La réalité que je constate dans ma propre vie, c'est qu'il est très facile de laisser notre relation à Dieu devenir un sujet secondaire. Quelque chose auquel on ne pense plus beaucoup, pour la simple et bonne raison, ou plutôt pour la simple et mauvaise raison, qu'on s'y est habitué. Peut-être que ce sujet, en fait ce soir, comme je ne vous connais pas tous très bien, peut-être que ce sujet finalement ne vous a jamais vraiment intéressé. Ne vous a jamais paru très important, je ne sais pas. En tout cas, quand Moïse écrit le texte qu'on est sur le point de lire, il sait que ses lecteurs, qui sont avant tout les Israélites, au moment où Moïse écrit ce récit, il sait que ses lecteurs sont enclins à glisser vers l'indifférence vis-à-vis de Dieu, soit parce qu'ils ont oublié qui était Dieu et ce qu'il avait fait pour eux, soit parce qu'ils ne l'ont jamais su, tout simplement. Et vous êtes peut-être dans l'un ou l'autre de ces cas aujourd'hui. Et moi, je ne peux pas me prononcer pour vous. Mais à travers ce passage, Dieu adresse un message très simple aux gens qui ont tendance à négliger leur relation à lui. C'est un message si simple qu'il peut se résumer à un seul mot. Attention ! Mais plus précisément, Dieu veut s'adresser aux gens qui se disent croyants pour leur dire ceci. Écoute bien, Alex. Écoute bien, Gilles, ou Nico, ou Yvette, ou Denise. Écoute bien, car je veux que tu mesures le caractère extrêmement solennel de ta vocation. Et est-ce que vous avez conscience que l'invitation que Dieu adresse aux hommes et qui consiste à le connaître représente une vocation d'une gravité extraordinaire? Est-ce qu'on en a conscience ce soir? Et si vous en avez conscience, si vous en aviez conscience, si j'en avais conscience, c'est cela qui ferait le plus l'objet de vos pensées chaque jour. C'est ça qui ferait le plus l'objet de mes pensées chaque jour. Et comme ce n'est pas le cas, c'est la preuve que nous n'en avons pas réellement conscience. On va donc lire le texte, mais avant je me permets de vous rappeler brièvement le contexte. Dieu a libéré les Israélites de l'oppression égyptienne, il l'a fait de façon spectaculaire, et ensuite les Israélites, par centaines de milliers, peut-être même plusieurs millions, on n'est pas sûr du nombre, mais en tout cas ils se sont mis en route dans le désert pour rejoindre la montagne de Dieu qui est parfois appelée dans la Bible le mont Horeb ou le mont Sinaï. Ce sont deux noms interchangeables. Ils sont en route dans le désert et pendant le voyage, Dieu pourvoit à leurs besoins en leur donnant de l'eau et de la nourriture et en leur donnant aussi la victoire dans le cadre de leur premier conflit militaire contre un gars qui s'appelle Amalek. Tout ça, on l'a vu au chapitre 17. Les Israélites ne sont pas loin du mont Sinaï lorsqu'ensuite, chapitre 18, Jéthro, le beau-père de Moïse, va rendre visite à son gendre. Il se convertit, parce qu'il était païen, et ensuite il va contribuer au bien-être et à la bonne marche du peuple de Dieu. Et en étudiant ce passage la dernière fois, on a vu que le peuple de Dieu était un peuple distinct du monde, mais pas isolé du monde. Et ça, c'était une idée très importante à dire avant de lire le chapitre 19, le chapitre suivant. Chapitre 19, donc, les Israélites vont arriver à la montagne de Dieu, là où Moïse avait précisément rencontré Dieu à l'occasion de l'épisode du buisson ardent, et là où Dieu avait annoncé d'avance que les Israélites devraient revenir, enfin en tout cas venir depuis l'Égypte, pour rendre un culte à Dieu. Et ça, on le sait depuis le chapitre 3. On sait que la destination, en tout cas, de cette première partie de leur voyage, c'est la montagne de Dieu, le mont Horeb ou le mont Sinaï, là où Moïse avait rencontré Dieu. D'accord ? Alors, lisons le texte. Exode chapitre 19, qu'on va lire en entier. Le troisième mois après leur sortie du pays d'Égypte, les Israélites arrivèrent ce jour-là au désert du Sinaï. Partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï et campèrent dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu. L'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant « Voici ce que tu diras à la maison de Jacob et que tu annonceras aux Israélites. Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait à l'Égypte. Je vous ai porté sur des ailes d'aigle et fait venir vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. » Moïse vint appeler les anciens du peuple et mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel le lui avait ordonné. Tout le peuple unanime répondit « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse répéta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse « Moi je viendrai vers toi au plus épais de la nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il ait aussi toujours confiance en toi. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse « Va vers le peuple, sanctifie-le aujourd'hui et demain, qu'ils nettoient leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le troisième jour. » Car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour en disant « Gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne portera pas la main sur lui, mais on le lapidera ou bien on le percera de flèches. Bête ou homme, il ne restera pas en vie. Quand la corne de bélier retentira, ceux-ci monteront sur la montagne. » Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple et ils nettoyèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple, « Soyez prêts dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. » Le troisième jour au matin, il y eut du tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son du cor retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp se mit à trembler. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Et ils se placèrent au bas de la montagne. Le mont Sinaï était tout en fumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Le son du cor retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait, et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur le mont Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne, et Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse, « Descends, avertis solennellement le peuple, de peur qu'il ne se précipite vers l'Éternel pour regarder, et qu'il n'en tombe un grand nombre. Que les sacrificateurs eux-mêmes, qui s'approchent de l'Éternel, se sanctifient aussi, de peur que l'Éternel ne cause des pertes dans leur rang. » Moïse dit à l'Éternel, « Le peuple ne pourra pas monter sur le mont Sinaï, car tu nous as solennellement avertis, en disant, « Fixe des limites à la montagne et sanctifie-la. » L'Éternel lui dit, « Va, descends, tu monteras ensuite avec Aaron, mais que les sacrificateurs et le peuple ne se précipitent pas pour monter vers l'Éternel, de peur qu'ils ne causent des pertes dans leur rang. » Moïse descendit vers le peuple et lui parla. Je vous invite à la prière. C'est un immense privilège, Seigneur, de pouvoir ce soir étudier ta parole librement. Merci de nous avoir transmis tes oracles, mais s'il te plaît, assiste-nous maintenant de ton Saint-Esprit pour que nous puissions bien entendre, bien comprendre, bien accepter et bien mettre en pratique tout ce que tu veux nous enseigner aujourd'hui. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu veut donc que nous mesurions le caractère extrêmement solennel de la vocation des croyants. Ça, c'est l'idée principale de ce texte. Mais la première chose que ce texte nous fait comprendre, dans le but de nous faire mesurer le caractère solennel de la vocation des croyants, la première chose que le texte veut nous faire comprendre, c'est que Dieu s'est acquis un peuple dans un but précis. Dieu s'est acquis un peuple dans un but précis. Et là, je vois que vous êtes en train de m'écouter bien sagement. Certains d'entre vous, vous êtes en train de hocher la tête pour montrer que vous êtes d'accord avec ce que je dis. C'est que vous n'avez pas compris vraiment ce que je viens de dire. Vous devriez être absolument stupéfait, ébahi, abasourdi, médusé, voire même estomaqué par ce que je viens juste de dire. Dieu s'est acquis un peuple avec un but, dans un but précis. Le Créateur souverain, régisseur du monde, celui qui a créé tout ce qui existe, ce qui est visible et invisible. Il est intervenu dans sa création, dans l'espace, dans le temps, pour prendre des hommes, des femmes, des enfants et en faire un peuple, son propre peuple, un peuple auquel il est attaché comme à la prunelle de ses yeux. Un peuple qu'il met à part du reste du monde dans un but précis qui consiste à faire connaître Dieu auprès du reste de l'humanité. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas complètement bouleversé quand on entend ces choses ? Imaginez qu'un jour un gros 4x4 noir avec des vitres teintées s'arrête devant chez vous, il en descend quatre gardes du corps armés avec des oreillettes et au milieu des gardes du corps, Barack Obama. Il entre chez vous et il vous saisit par les épaules, d'accord ? Et il vous regarde droit dans les yeux et il vous dit « Faustine, je suis venu jusqu'ici juste pour te voir, toi et personne d'autre. Écoute-moi bien, Faustine, écoute-moi bien, avec son accent américain. Écoute-moi bien, Faustine, je ne peux pas tout expliquer pour l'instant. Mais il faut que tu saches une chose. C'est toi et personne d'autre que je veux avoir pour porte-parole dans le cadre de ma campagne électorale contre Mitt Romney, tu comprends ? Toi et personne d'autre. Alors dites-moi, est-ce que ce soir-là, vous arriveriez à vous endormir facilement ? Et le début du chapitre 19, le texte que nous venons de lire, est censé produire sur nous un effet similaire. Les Israélites arrivent à la montagne de Dieu. Enfin ! C'est un grand moment du récit au début du chapitre 19. Ils arrivent enfin à la montagne de Dieu. Il y a même un genre de suspense qui est introduit dans le texte par un procédé textuel propre à l'hébreu avec des répétitions, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, vous pouvez voir ça vous-même. Et Moïse, c'est un moment très solennel, Moïse monte en haut de la montagne. Et là, le premier message que Dieu veut communiquer au peuple, c'est un message relativement bref, il tient à 3 versets, mais il est d'une solennité extraordinaire. Extraordinaire. Encore une fois, je n'ai pas le temps malheureusement de tout regarder en détail dans ces paroles que Dieu adresse au peuple par l'intermédiaire de Moïse, mais si ça vous intéresse, j'ai écrit un article de 8 pages sur les 6 premiers versets du chapitre de l'Exode, du chapitre 19 de l'Exode, si ça vous intéresse, je peux vous le faire parvenir. Mais il suffit de retenir cette idée. En l'espace de ces 3 versets, Dieu nous livre son interprétation de la situation des Israélites à ce moment-là du récit. Il interprète pour nous et il nous donne son point de vue sur la situation des Israélites qui sont réunis là, par millions, milliers, peut-être millions, au pied de la montagne, qui sont sortis d'Égypte, qui ont déjà voyagé un certain temps dans le désert. Il nous donne son interprétation. Ce peuple, Dieu est en train de dire, c'est le peuple que Dieu s'est acquis pour un but précis. Et ce but consiste à le faire connaître au reste de la terre. La vocation des croyants, c'est la même aujourd'hui. Et si vous en doutez, il vous suffit de voir la façon dont l'apôtre Pierre, dans le Nouveau Testament, applique aux chrétiens exactement les mêmes termes que Dieu applique aux Israélites dans ce passage. Et ces quelques versets, on en a déjà eu l'occasion de les lire, se trouvent dans la première épître de Pierre, chapitre 2, versets 9 et 10. En participant à la vie d'une église chrétienne, donc, vous participez, mes amis, à la vie du peuple que Dieu s'est acquis dans le but de se faire connaître au reste de sa création. C'est énorme ! C'est énorme. Bon, je sais qu'en même temps, vous regardez autour de vous et vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans ce sous-sol du quartier de Gerland, alors qu'il y a probablement plusieurs milliers de personnes au stade de Gerland en ce moment même. Vous dites qu'il y a peut-être un décalage entre la solennité de cet appel que Dieu adresse aux croyants et la petite assemblée SDF que nous sommes ici réunis aujourd'hui. Mais vous savez quoi, les Israélites, quand ils ont entendu ces paroles de la part de l'Éternel transmises par l'intermédiaire de Moïse, ils se sont dit la même chose. Ils se sont regardés les uns les autres, ils se sont dit, mais nous, peuple fugitif, anciens esclaves, errant dans le désert, sans territoire fixe, peuple STF si vous préférez, Mais quoi qu'il en soit, quel que soit notre point de vue, le point de vue de Dieu qui nous est donné ici dans sa parole, c'est que Dieu s'est acquis un peuple dans un but précis. Nous sommes un peuple appelé. Notre vocation est extrêmement solennelle. Mais le récit ne s'arrête pas là. Moïse a donc transmis le message au peuple de la part de Dieu, et ensuite il remonte vers Dieu pour transmettre à Dieu la réponse du peuple. Et le peuple, vous avez vu, il accepte d'assumer cette mission que Dieu lui confie, cette mission extraordinaire. Mais ensuite, le texte veut nous faire comprendre une deuxième chose dans ces versets 10 à 15. Une deuxième chose qui est destinée, elle aussi, à nous faire mesurer le caractère extrêmement solennel de la vocation des croyants. Cette deuxième chose, c'est la suivante, c'est que le Dieu qui est l'auteur de cette vocation est terriblement dangereux. Le Dieu qui est l'auteur de cette vocation est terriblement dangereux. Dans le texte, on voit que Dieu annonce qu'il va se révéler au peuple depuis la montagne. Ça va être quelque chose d'extraordinaire. Dieu va se révéler à des hommes, truc extraordinaire. Si bien que le peuple doit se préparer pendant 2 jours entiers. Non seulement le peuple doit se préparer, vous avez remarqué, il doit se laver leurs vêtements, il doit s'abstenir de toute relation conjugale. Mais non seulement le peuple doit se préparer, mais la montagne, elle aussi, est entièrement mise à part. Personne ne doit monter dessus, ni même toucher la montagne sous peine de mort. Un avertissement si sérieux qu'il est répété ensuite au verset 21 à 24, un peu plus loin dans le chapitre. L'idée principale, c'est que le peuple et la montagne doivent être sanctifiés pour être prêts à accueillir la sainteté de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire sanctifier quelque chose ? Sanctifier quelque chose, ça veut dire préparer ou apprêter quelque chose et le mettre à part pour une occasion particulière ou pour un usage particulier. C'est un peu comme lorsqu'on stérilise des pots de confiture avant d'y mettre la confiture, vous voyez ? Moi, cette semaine, j'ai fait de la crème de marron. Et avant d'empoter ma crème de marron, j'ai pris mes pots vides et les couvercles, je les ai mis dans de l'eau bouillante pendant quelques minutes pour les stériliser. J'étais en train de les sanctifier, si j'ose dire, pour un usage particulier. J'étais en train de les apprêter pour un usage particulier. Et en l'occurrence, dans le texte, il s'agit d'apprêter non pas des pots de confiture, mais il s'agit d'apprêter le peuple et la montagne pour ce moment où Dieu va se manifester. Ce qu'on appelle en théologie une théophanie, quand Dieu se manifeste. Mais ce qui est remarquable dans ce passage, c'est que la sainteté de Dieu est présentée comme quelque chose de dangereux pour l'homme. Vous avez remarqué ça ? Presque comme une maladie. On a l'impression que la montagne est placée sous quarantaine, comme si elle était infectée d'un terrible virus. Celui qui la touche, qui touche la montagne, doit être mis à mort, et il ne faut surtout pas toucher ce gars-là, il faut le mettre à mort à distance. C'est pour ça que le texte dit qu'il faut le mettre à mort en le lapidant, en jetant des pierres, ou bien le mettre à mort en utilisant des flèches. Et c'est très rare que la Bible dise qu'il faut mettre à mort des gens en le perçant de flèches, en tirant d'un arc. Non seulement les hommes, mais aussi les animaux dans ce texte. Hein. Comme si ces êtres vivants allaient ou risquaient de contaminer les autres par leur contact. C'est très fort. Hein. L'idée est simple. C'est qu'il y a entre Dieu et les hommes un abîme ou une distance infranchissable. Infranchissable. Dieu est dangereux comme le soleil est dangereux. Celui qui s'en approche, il meurt. La sainteté de Dieu est insupportable pour l'homme. Insupportable pour l'homme. Alors bien sûr, les ordres qui sont donnés aux Israélites dans ce passage n'ont rien de magique. Ce n'est pas en se lavant ou en s'abstenant de relations conjugales que le peuple est en réalité ou substantiellement rendu saint comme Dieu est saint. Il n'y a pas de procédé magique là-dedans. Et la montagne non plus ne risque pas en réalité de contaminer qui que ce soit de façon substantielle. Il n'y a rien de magique là-dedans. Ce sont des dispositions ici que Moïse transmet au peuple par l'intermédiaire de Moïse et qui ont une portée pédagogique. Bien que les peines en cas de désobéissance sont bien réelles quant à elles. Hein. Ce n'est pas des figures de style, hein. Des peines bien réelles. Mais la portée est pédagogique. Ces dispositions sont destinées à montrer aux Israélites que l'Éternel, leur Dieu, est totalement distinct de sa création. Il n'est pas du tout comme quoi que ce soit d'autre qui existe ici-bas sur terre. Il est inaccessible, inapprochable, parfaitement saint et transcendant. Il est ineffable, redoutable, comme on l'a chanté, ce qui le démarque radicalement de tout ce qui existe ici-bas, y compris toutes les idoles des peuples environnants qui sont taillées dans la pierre et le bois. L'Éternel n'est pas du tout comme ça. Le Dieu qui est l'auteur de la vocation des croyants est terriblement dangereux. Terriblement dangereux. Et le Dieu que vous êtes venu adorer aujourd'hui, mes amis, est terriblement dangereux. Le Dieu dont vous portez le nom, si vous vous dites chrétien, est terriblement dangereux. Le Dieu que les croyants sont appelés à faire connaître au reste du monde est terriblement dangereux. Et je me demande si nous en avons vraiment conscience. Dans quelle disposition d'esprit sommes-nous venus au culte aujourd'hui ? Rendre un culte à ce Dieu terriblement dangereux. Dans quelle disposition d'esprit sommes-nous venus ? Et je crains que parfois nous nous présentons devant Dieu de façon un peu désinvolte, c'est pas vrai ? De façon un peu désinvolte, et pour tout vous dire, je crois que certains chants populaires évangéliques nous encouragent malheureusement dans ce sens. Dans le sens de la légèreté et de la désinvolture. Alors qu'en réalité, la réalité c'est que nous servons un Dieu dangereux. Un Dieu dangereux. Nous sommes le peuple d'un Dieu dangereux. Et notre vocation, voyez-vous, en tant que croyant, en tant que membre de ce peuple, est par conséquent extrêmement solennelle. Extrêmement solennel. C'est du sérieux. Mais il y a encore une troisième et dernière chose que le texte veut nous faire comprendre, toujours pour nous faire mesurer le caractère extrêmement solennel de la vocation des croyants. Et cette dernière chose, c'est la suivante. C'est que l'abîme qui sépare les hommes de Dieu ne peut être franchi que par le médiateur que Dieu a désigné. L'abîme qui sépare les hommes de Dieu ne peut être franchi que par le médiateur que Dieu a désigné. Et donc dans le texte, le moment arrive où Dieu se manifeste, à partir du verset 16. C'est un moment effroyable, effroyable. Les éléments se déchaînent et le texte nous dit que le peuple tremble de peur. Vous imaginez 1 ou 2 millions de personnes terrassé par la peur. C'est qu'il se passe quelque chose d'effroyable. Mais dans les versets 16 à 25, ce qu'il faut vraiment remarquer, c'est le rôle incroyable de Moïse. C'est lui qui fait sortir le peuple du camp et qui le mène à la rencontre de Dieu, verset 17. C'est lui qui parle à Dieu et c'est à lui que Dieu répond à haute voix, verset 19. C'est à lui que Dieu dit de monter sur la montagne. Et il monte, verset 20. C'est à lui que Dieu dit de redescendre pour parler au peuple. Et il redescend, il s'exécute, il fait ce que Dieu lui dit, versets 21, 24 et 25. C'est un rôle incroyable et unique, pourquoi ? Parce que dans ce texte, c'est le seul qui est habilité à le faire. Même les gens qui portent dans ce texte le titre de sacrificateur, ce qui signifie prêtre, ne peuvent pas monter sur la montagne. Et pourtant, prêtre, ça veut dire quoi par définition ? Ça veut dire un genre de médiateur, les gens qui font le lien entre Dieu et les hommes. Même eux qui portent le titre de sacrificateur, alors on n'est pas trop sûr de qui il s'agit, puisque la prêtrise d'Israël n'a pas encore été instituée à ce stade de l'histoire. Donc c'est peut-être un genre primitif de prêtrise. Mais même eux, de par leur métier pourtant, ils auraient pu présumer qu'ils pouvaient monter, même eux ne peuvent pas. Mais Moïse, oui, Moïse, oui. Alors imaginez la scène, hein. Un tremblement de terre, au point que la montagne elle-même bouge. Il y a des éclairs dans le ciel, le tonnerre, une fumée noire, une montagne embrasée par le feu, comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans un passage où il se réfère à ce qui se passe ici. Il se passe toutes ces choses-là, les éléments se déchaînent et Dieu dit à Moïse, viens ! Viens Moïse ! Chose remarquable, Moïse y va. Moïse, il va. C'est un peu comme un pompier qui s'engouffre dans une maison en flammes. Hein ? On se dit, mais c'est un fou celui-là. Puis en même temps, on se dit, mais c'est un héros celui-là. Peut-être qu'il s'engouffre dans les flammes au péril de sa vie pour sauver quelqu'un parce qu'il a entendu sa voix qui appelait au secours, au secours. Il est fou, mais c'est aussi un héros. La différence, bien sûr, qu'il y a dans le texte entre Moïse et les autres, c'est que Moïse a été désigné par Dieu. Il a été expressément désigné par Dieu pour occuper cette fonction d'intermédiaire, ou si vous préférez, de médiateur. Entre lui, c'est-à-dire entre Dieu et le peuple. Moïse, dans ce texte, c'est le seul qui est habilité par Dieu à franchir l'abîme qui sépare Dieu de son peuple. C'est lui qui fait le lien entre l'Éternel et son peuple. C'est lui qui franchit la distance, c'est lui qui représente le peuple auprès de Dieu et Dieu auprès du peuple. Son rôle est tellement nécessaire, tellement indispensable, qu'au chapitre suivant, on l'a pas lu ça, mais on le voit au chapitre suivant, chapitre 20, le peuple va finir par dire à Moïse ceci. « Moïse, parle-nous toi-même et nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas, de peur que nous mourions. » Vous voyez le rôle de Moïse. Et en tant que médiateur, Moïse est même censé être l'objet de la confiance des Israélites, comme Dieu l'a dit lui-même au verset 9 de ce passage que nous avons lu. En quelque sorte, on peut dire que Moïse, à ce stade de l'histoire, c'est la sécurité des Israélites. Puisque en Moïse, les Israélites ont quelqu'un qui les relie à Dieu. Et sans Moïse, ils ne pourraient pas s'approcher de Dieu. L'idée principale, encore une fois, c'est que nous avons besoin de quelqu'un qui soit habilité par Dieu pour s'approcher de lui en notre faveur. Voilà l'idée. On a besoin de quelqu'un qui soit habilité par Dieu pour s'approcher de Dieu en notre faveur. Et ce jour-là, c'est une leçon très très importante que les Israélites ont comprise. L'abîme qui nous sépare de l'Éternel ne peut être franchi que par le médiateur que l'Éternel a désigné. Et le problème, c'est que Moïse n'a pas été un médiateur parfait. Ni Aaron, son frère, qui était le premier des grands prêtres pour Israël, lui non plus n'a pas été un médiateur parfait. Et qui pouvait les remplacer de toute façon après leur mort? Personne, personne dans toute l'histoire de l'Ancien Testament n'a jamais pu établir un lien parfait et indéfectible entre le peuple et Dieu. Personne, pas même Moïse, n'a pu s'approcher de Dieu de la part du peuple et franchir une fois pour toutes l'abîme qui séparait le peuple de Dieu. Personne n'a pu franchir une fois pour toutes la distance infranchissable pour garantir au peuple une sécurité absolue et une espérance indéfectible. Personne, 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 depuis les premières pages de la Genèse jusqu'aux dernières pages de Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament. Personne n'a pu le faire. Jusqu'à la venue de Jésus, jusqu'à la venue du Messie, promis. Jésus est présenté dans la Bible comme le médiateur parfait, celui qui succède à Moïse et qui surpasse Moïse. Il est le médiateur parfait parce qu'il est Dieu en personne, Dieu incarné. Il est moralement parfait, sans tache ni défaut, nous dit la Bible. Et il a pénétré dans la maison en flammes à notre place. Il s'est exposé à l'ardente colère de Dieu à notre place. Il a subi à notre place le feu de l'enfer. La Bible dit qu'il a été fait péché pour nous et il s'est approché du soleil et il a brûlé et il est mort. Il nous a parfaitement représentés auprès de Dieu en subissant à notre place la peine capitale réservée aux pécheurs qui s'approchent d'un Dieu trois fois saint. La peine capitale réservée aux pécheurs qui osent toucher le bord de la montagne de l'Éternel. Jésus a subi cette peine à notre place. Il l'a subie pour que nous n'ayons pas à la subir. Il a parfaitement expié nos fautes. Et Dieu a été parfaitement satisfait par ce sacrifice que Jésus a offert en livrant son corps sur la croix. Et Dieu le Père a validé de façon solennelle ce que Dieu le Fils a fait en le ressuscitant le troisième jour d'entre les morts et en garantissant ainsi à tous ceux qui font confiance à Jésus eh bien qu'ils ont un libre accès au sommet de la montagne, c'est-à-dire dans la présence de Dieu et cela pour l'éternité. Et voici par conséquent comment l'auteur de l'Épître aux Hébreux décrit l'espérance des chrétiens, c'est-à-dire l'espérance de tous ceux qui craignent Dieu et qui placent leur entière confiance en Jésus. Voici comment il décrit cette espérance. Cette espérance, nous l'avons comme une ancre solide et ferme pour notre âme. Elle pénètre, l'ancre, elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous. Une ancre solide et ferme que Jésus a plantée une fois pour toutes dans la présence de Dieu. au sommet de la montagne, si vous voulez, ou encore dans le lieu très saint, le centre du temple, le lieu de la présence glorieuse de Dieu. Il l'a planté une fois pour toutes dans la présence de Dieu, et cette ancre est reliée par une chaîne incassable à notre âme. Voilà la sécurité des croyants qui placent leur confiance en Jésus. Voilà pourquoi Jésus est le médiateur parfait que Dieu a désigné et qui a franchi une fois pour toutes l'abîme qui nous séparait de Dieu. Et quelques chapitres plus loin, c'est très intéressant dans cette épître aux Hébreux, quelques chapitres plus loin, l'auteur ajoute quelques précisions concernant les chrétiens et il se réfère à ce qui s'est passé ce jour-là au Mont Sinaï. Écoutez bien ce qu'il dit. Je ne vais pas tout expliquer, mais écoutez quand même ce qu'il dit concernant les chrétiens. Vous ne vous êtes pas approchés, vous les chrétiens, vous ne vous êtes pas approchés en effet d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de l'obscurité, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni d'une clameur telle que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'on ne leur adresse pas un mot de plus, car ils ne supportaient pas cette injonction. Même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et le spectacle était si terrifiant que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant ». Mais au contraire, vous, chrétiens donc, hein, vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, c'est-à-dire de la présence réelle de Dieu, et de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, c'est-à-dire la vraie Jérusalem. Vous êtes approchés des myriades d'anges, c'est-à-dire du paradis, du vrai ciel. Vous êtes approchés de la réunion et de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, de Dieu, juge de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, et de Jésus, médiateur d'une nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion, c'est-à-dire du sang de Jésus, qui parle mieux que celui d'Abel. Hébreux chapitre 12. Alors vous commencez à comprendre, j'espère, pourquoi en introduction je disais qu'à travers ce texte que nous avons maintenant lu et étudié, Dieu voulait adresser un message finalement simple aux gens qui ont tendance à négliger leur relation à lui. Un message si simple qu'on peut le résumer à un seul mot. Attention ! Écoute bien ! Christophe, Hélène, Chingé, Jonathan, écoute bien, je veux que tu mesures le caractère extrêmement solennel de ta vocation en tant que croyant. C'est extrêmement solennel parce que, un, on l'a vu, Dieu s'est acquis un peuple particulier pour une mission particulière qui consiste à faire connaître Dieu au reste du monde. Deuxièmement, parce que le Dieu qui est l'auteur de cette vocation, c'est le Dieu unique et vivant, le Dieu trois fois saint, le Dieu dangereux dont les hommes ne peuvent s'approcher sans mourir. Et troisièmement, parce que l'abîme qui nous sépare de Dieu n'a pu être franchi parfaitement que par le médiateur parfait que Dieu lui-même a désigné, à savoir son Fils Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité en faveur de tous ceux qui placent leur confiance en lui. Vous voyez pourquoi la vocation des croyants est une vocation extrêmement solennelle ? Pourquoi c'est si sérieux ? Pourquoi c'est d'une telle gravité? Vous voyez pourquoi notre relation à Dieu devrait occuper nos pensées plus que toute autre chose? Est-ce qu'elle occupe vos pensées plus que toute autre chose, votre relation à Dieu? Elle devrait le faire, à cause de qui nous sommes, à savoir un peuple appelé, à cause de qui est Dieu, à savoir l'Éternel, le Dieu dangereux, et à cause de qui est ce médiateur indispensable, à savoir Jésus-Christ, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur. Ayons donc de la reconnaissance, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux toujours, ayons donc de la reconnaissance, en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Je vous invite à la prière. Viens à notre secours, Seigneur, notre Dieu. Aie pitié de nous, car nous reconnaissons que nous sommes enclins à tomber dans l'indifférence vis-à-vis de toi. Aide-nous à maintenir dans notre piété une juste crainte de qui tu es et de la solennité de la vocation que tu nous adresses. T'en prions au nom de Jésus. Amen.